Interview.
2 heures. L'interview du jour.
Depuis quelques années, mes voisins agriculteurs en bio ou en conventionnel cherchent à s'adapter au dérèglement climatique, avec chacun leur stratégie. Mais la sécheresse record de 2022 a tout remis à plat.
En tout cas, le ruisseau, il coule presque plus.
T'as ta culture, tu la vois crever, c'est un truc, ça te prend en trip. En fait, la flotte, c'est très très compliqué. Hein.
Dans 10 ans, ce qu'on va produire, j'en ai aucune idée. Un de mes deux garçons voudrait reprendre la ferme, je sais pas si je l'encouragerai.
On imagine même changer la ferme un jour peut-être. Ça fait, je sais que dans nos débats, des fois, on dit on changera de culture s'il faut changer de culture.
Sans eau, les poireaux, ça va pas trop le faire. Et ils annoncent aucune pluie. Période de canicule, on va monter à 37 degrés, machin. Enfin, c'est ambiance, quoi.
Alors, est-ce qu'on valide qu'effectivement, cette région n'est plus adaptée pour produire des fruits et légumes? C'est compliqué. Le sujet, c'est voilà, c'est qu'est-ce qu'on peut produire sans eau?
Résilience alimentaire, ce n'est pas uniquement l'idée de comment être capable de faire face à des aléas, c'est en fait comment reprendre un peu de pouvoir sur le système, comment reprendre la main sur son système. Enfin, c'est là l'intérêt aussi de remettre les citoyens dans une capacité de réfléchir et de savoir comment ils veulent manger demain, mais derrière comment ils veulent manger, c'est comment ils veulent faire le monde.
Bonjour, ici Erdiwa, c'est l'heure de l'interview. Émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 et sur le 101.7 à Lucandiwa. Aujourd'hui au studio, nous sommes en compagnie de Nathanaël Coste. Bonjour.
Bonjour Yves.
Comment vas-tu?
Ça va fort bien.
Avec ce temps?
Ma foi, oui, ce temps incroyablement chaud pour
la
saison.
Oui, pour un mois d'octobre, toujours pas allumé le chauffage, c'est bien.
Ouais.
Et tu es ici pour nous parler donc d'une avant-première, l'une à Cray, au cinéma L'Éden, ce 5 octobre, donc jeudi, et suivi dimanche 8 à 10 au Pestel, au cinéma Le Pestel, du film La théorie du boxeur. Une adaptation, il s'agit de parler d'une adaptation de l'agriculture et de l'alimentation au changement climatique. Ça, c'est un vaste sujet d'actualité, donc il y a cette part aussi donc, d'informer aussi le public. Qu'est-ce qui est présenté d'ailleurs dans ce film?
Écoute, dans le film, c'est une enquête qu'on a réalisée dans la vallée de la Drôme. Donc c'est un film qui est vraiment un film de territoire qu'on a tourné depuis 2021. Donc il y a 2 ans et demi d'enquête dans des fermes de la vallée de la Drôme. Donc ça va de L'Oriol jusqu'à Val-Drôme. Donc on a couvert un maximum, on va dire, de les différents espaces de la vallée. Et on a essayé de comprendre comment les agriculteurs et les agricultrices étaient impactés par le changement climatique. Qu'est-ce qui était déjà en place dans les fermes. Et donc il y a eu ce fameux été 2022 l'an dernier qui a quand même un peu rebattu les cartes parce que en fait on s'est un peu rendu compte de la rapidité et de, on va dire, de la violence qu'il pouvait y avoir en termes de sécheresse, de vagues de chaleur, voire de gel tardif, ça on le savait déjà, mais finalement ça nous a mis un petit peu dans le grand bain, on va dire, du changement climatique, et donc on capte aussi les suites de ça. Et le film montre aussi des pistes d'adaptation concrètes qu'il peut y avoir sur le territoire, qui sont que des pistes, hein, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt un cocktail de modes d'adaptation sur le terrain et qui est envisageable.
Donc ce film relate aussi ses visites auprès de diverses fermes. Et est-ce qu'il y a, en fonction de ce qu'elles produisent, une corrélation dans cette démarche, justement?
Alors on a effectivement, dans le film, on voit plusieurs filières qui sont implantées dans la vallée. Donc il y a le... Il y a le cas de l'arboriculture, du coup, plus vers la vallée du Rhône, qui est très touchée par les gels tardifs, notamment aussi par le fait que les arbres ont un besoin en froid. Et donc, s'il ne fait pas assez froid l'hiver, les arbres, finalement, sont moins productifs après, ou ça ne se fait pas très bien le redémarrage. Donc l'arbo est très touché aujourd'hui et met des modes d'adaptation, vraiment des investissements dans des tours anti-gel, dans des machines qui envoient du gaz chaud, des bougies, bien entendu. Donc voilà, le film montre un peu cette réalité-là qui est quand même assez crue. Dans l'élevage, on parle aussi, bien évidemment, on monte en alpage, on voit les problèmes de sécheresse qu'il peut y avoir en alpage. Et les questions sur l'eau, comment on abreuve aussi, il y a eu ce problème-là en 2022, des troupeaux qui ont dû redescendre parce qu'on n'arrivait plus à... Les sources étaient taries, tout simplement. Donc les problèmes d'eau, toujours aussi concernant le maraîchage dans la zone et aussi les grandes cultures, donc dans le sud, dans le bas de la vallée, là. Dans le Crétois, on a beaucoup d'irrigation, donc on parle aussi, on pose un peu à plat ces problématiques d'irrigation et aussi la problématique des stockages qui est très, on va dire aujourd'hui, dont on entend beaucoup parler, stocker, pas stocker, comment, quoi. Voilà, on essaie de mettre un peu à plat ce sujet-là qui est sensible.
Ces visites effectives donnent lieu ensuite à des moments de réflexion, de rencontres aussi qui sont relatées dans ce film.
Ouais, alors tout à fait. On interviewe donc des agriculteurs, des agricultrices qui témoignent de ça et des types d'adaptations qu'ils sont en train de tester. Donc certaines plutôt basées sur effectivement des investissements, de la technologie, des infrastructures ou voire de la génétique et d'autres plus basées sur l'agroforesterie, sur des façons de comprendre aussi le vivant. On traite aussi la question de la biodiversité et de l'effondrement de la biodiversité qui est une deuxième crise en fait qui nous touche et qui est du coup pas forcément corrélée d'ailleurs complètement à la crise climatique, même si les causes peuvent en être assez similaires. Et puis on élargit, on va voir aussi des chercheurs, alors pas très nombreux, c'est quand même un film qui reste beaucoup à l'échelle de la parcelle, mais on essaie d'élargir avec notamment une chercheuse là, qui s'appelle Agnès Bergeret, qui nous explique un petit peu là, le contexte du changement climatique dans la région. Et puis Nicolas Bricasse, qui lui est un chercheur au CIRAD, à Montpellier et du coup qui lui fait des parallèles très intéressants sur la question de l'alimentation aussi et quelle peut être la place en fait et le rôle d'une démocratie alimentaire.
Juste pour revenir sur le titre La théorie du boxeur, peut-on expliquer ce titre ?
Alors ouais, la théorie du boxeur, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs théories du boxeur. Il y a celle de départ, c'est une théorie d'écologie en fait qui s'appelle comme ça, qui concerne surtout les arbres et notamment donc ça c'est une des séquences d'introduction du film sur la situation on va dire des forêts dans le Diois qui est quand même assez saisissante. Donc vous découvrirez un peu plus ce qu'il en est. Et puis nous, au travers le film, on essaie de donner une autre signification aussi à cette théorie du boxeur. Et puis il y a quelques indices qui sont aussi sur l'affiche.
Et puis, il y a donc ce constat, ces recherches, ces réflexions quant à l'avenir de l'agriculture. Oui. Quel est le regard porté encore en plus sur l'actualité autour de ces bouleversements climatiques ?
Il y a une très grosse actualité. Donc déjà, l'agriculture, elle est touchée de plein fouet par tout un tas de... On va dire de problématiques concomitantes, il y a la transmission, il y a l'accès aux terres, donc on ne sait pas qui seront les agriculteurs dans 10 ans. Il y a la moitié des fermes au niveau français, des exploitations qui vont prendre leur retraite. Donc qui va cultiver dans 10 ans ? Est-ce que ce sera des énormes fermes qui ont été rachetées ou est-ce qu'on arrivera à installer des fermes familiales ? Le gouvernement, je crois, a communiqué sur un plan pour aider à l'installation, à la transmission. Donc en tout cas, on dirait qu'il y a une prise de conscience du politique que là, il y a vraiment un enjeu crucial. Est-ce que, quels vont être vraiment les effets de ça ? Il faudra suivre ça. Et puis, il y a une grande loi d'orientation agricole qui est en préparation, donc qui va donner le cap de la politique agricole française des 10 prochaines années. Donc là, il y a un vrai enjeu et peut-être aussi de faire remonter des choses, d'avoir des lobbies citoyens. Ou en tout cas, il y a des organisations, notamment le collectif Nourrir, qui est en train vraiment de travailler sur ces sujets-là en termes de lobbying auprès de l'État. Parce qu'en fait, c'est vraiment le système agroalimentaire qui a besoin de se transformer. Aujourd'hui, on gaspille un tiers de tout ce qui est produit. Il y a des tas de gens qui dépendent de l'aide alimentaire. On a vu en plus qu'on a pris 25% sur les prix de l'alimentation depuis 2021. Donc on va dire le changement climatique, il arrive un petit peu comme la goutte d'eau qui vient tout secouer, mais le contexte dans lequel ça arrive est déjà assez inquiétant. Et puis bah, la rémunération des agriculteurs, qui est souvent pas du tout satisfaisante, en tout cas vu la charge de travail et le niveau d'endettement. Donc il y aurait vraiment un modèle aussi à peut-être à repenser. Et là, le changement climatique, c'est le choc en fait, qui fait que, ben, en plus, on ne sait pas du tout quelle va être la viabilité de certaines filières à court et moyen terme. Donc voilà, c'est l'occasion en fait de se reposer toutes ces questions et peut-être de faire bouger les politiques.
Et il y a aussi la politique qui peut impacter également sur l'agriculture. On vient d'apprendre que M. Wauquiez, qui s'est réveillé, donc, a décidé de se retirer sur ce projet national de non-artificialisation des sols. Qu'en pensez-vous de cette proposition ?
Qu'en penser ? Alors moi, je ne suis pas commentateur politique. Ce que je peux dire, par contre, c'est que le ZAN, zéro artificialisation nette, c'est dur à dire, hein, c'est vrai. Et ben, c'est une loi. Donc, du coup, a priori, la région Auvergne-Rhône-Alpes, je ne vois pas très, très bien comment elle peut faire sécession par rapport à une loi. Après, effectivement, peut-être que l'application de cette loi pose problème. Ça, je ne suis pas spécialiste du sujet du tout. Ce que je sais, c'est qu'en gros, ça consiste à dire si on artificialise des terres agricoles, et ben, du coup, il va falloir renaturer des espaces, donc retrouver un équilibre pour qu'il n'y ait plus de nouvelles surfaces bétonnées. Donc, je pense que ça va quand même plutôt dans le bon sens au départ. Et après, c'est vrai que dans des milieux ruraux qui sont en croissance, comme ça peut être le cas chez nous, ça pose aussi question. Parce que du coup, si on peut plus construire, où est-ce qu'on met les nouveaux habitants ? Et comment s'envolent les loyers ou pas ? Donc, en fait, ça pose quand même des questions. Après, le fait de faire sécession comme ça, je pense que c'est plus du... Je l'interprète comme plus l'envie d'occuper l'espace médiatique que comme un truc vraiment réaliste.
Alors, il y a ces projections hein, d'avant-première que j'ai citées, mais je crois que d'autres dates sont à l'ordre du jour.
Oui, alors du coup, bah, y a effectivement l'avant-première qui est jeudi 5 octobre à Die, à l'Éden, puis on vient, à Cray jeudi soir, le 5, et on vient à Die dimanche soir. Donc là, ce sera en compagnie d'un invité qui m'est très cher, qui s'appelle Serge Zaka, qui est agroclimatologue, qui est vraiment une éminence au niveau national et qu'on voit sur pas mal de plateaux télé ou sur des France Info, des France diverses et variées, pour venir commenter en fait la réalité du changement climatique et les modes d'adaptation possibles. Donc là, vraiment super qu'il soit là. Et donc ça, ce sera au Pestel à 20h, dimanche soir. Et par la suite, on va avoir aussi une projection à Eure dans le cadre de l'AgriBioFête, donc, qui est organisée par AgriBiodrome, là, qui est une structure qui accompagne les fermes bio de la vallée depuis des temps historiques. Et donc ça va se dérouler à la Ferme Heureuse à Eure, donc le samedi 14 octobre à 18h. On passe le film, mais il y a un programme sur toute la journée. Vous irez voir l'AgriBioFête. Et puis, donc, pour ceux qui sont plutôt vers Valence, on va le passer à Valence au Luxe avec aussi des invités. Ce sera le 7 novembre. Voilà.
Et puis, il y a un appel aussi pour des personnes intéressées à être animateur ou animatrice pour ces échanges d'après-film, que ce soit pour ces deux séances et peut-être même celle de Heure en plus.
Ouais. Alors, ben, merci Yves d'en parler. Donc, là, en fait, nous, la dynamique, c'est qu'on organise, nous, ces avant-premières et qu'après, ben, on invite n'importe quelle organisation particulière à, pourquoi pas, organiser une projection de la théorie du boxeur. Donc, c'est un film qui dure 1h37. Et derrière, nous, on a formé des animateurs, des animatrices, c'est en cours, pour qu'ils puissent et qu'elles puissent se rendre sur les projections et animer des temps d'échange qui se veulent respectueux et un peu à l'écoute de toutes les sensibilités sur ces sujets un peu glissants, un peu casse-gueule. Et le film aussi pose des questions qui sont pas forcément simples. Il n'y a pas forcément de réponse simple non plus. Mais du coup, c'est ouvrir des espaces où on peut réfléchir de ça. Et en fait, on sera super contents s'il y a tout un tas de projections qui s'organisent. Donc nous, on a une équipe de diffusion qui peut... vous accompagner pour mettre en place une projection avec un modèle économique normalement assez accessible ou finalement avec une billetterie à prix fléché qui permet en fait que ce soit accessible à toutes les bourses. Et du coup, derrière, on peut vous aider pour trouver des salles ou trouver du matériel de projection si vous aviez envie d'organiser une projection, quoi.
Est-ce qu'il y a quelques contraintes techniques pour des personnes qui souhaiteraient justement organiser ce type de projection ?
Alors, des contraintes, il faut forcément une salle, un vidéoproj, un écran et une sono. Et donc, si possible, un témoin aussi local, quelqu'un qui viendrait témoigner, avec lequel on peut aussi vous mettre en contact, ainsi qu'un animateur, animatrice. Donc nous, l'équipe, on est là pour faciliter, en tout cas, fluidifier tout ça. On n'est pas organisateur à votre place, mais on est là pour rendre ça possible. Et puis, s'il y en a qui veulent se former pour devenir animateur, animatrice dans le DIY ou plus loin, n'hésitez pas à nous contacter aussi via le site du film.
Et puis, kamehamehafilm.org, c'est aussi cette organisation qui a permis l'existence de ce film, avec divers contacts sur les réseaux sociaux, hein, que ce soit sur Facebook, Instagram ou Twitter.
On peut dire peut-être juste le nom du site, le nom du site internet pour retrouver toutes les infos, c'est tout simplement lathéorieduboxeur.fr.
Eh bien... Nathanaël, merci d'être venu sur RDVOA pour nous annoncer ces avant-premières sur la théorie du boxeur.
À bientôt.
Salut. Au revoir.